Re-bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, comme le dit notre chum Carl, camionneur. Il dit re-re-re, bonjour. Eh bien oui, on continue ce marathon de 8 heures de radio, moi et Mathias Turcotte.
Je suis content de te parler pour la première fois aujourd'hui,
ben
Jeff.
Ben oui, c'est maintenant l'heure de l'émission On en jase, animée par Jeff Fortin, avec Mathias Turcotte. Je vous rappelle que demain, ne manquez pas notre annonce, 7h30. Dans Marceau, le matin, on va annoncer deux nouvelles personnes avec nous qui vont joindre l'équipe. Franchement, vous allez être... je suis certain que vous allez être content. Puis on va juste renforcer cette belle équipe-là à Boulevard 101 pour vous tenir au courant de l'actualité qui se passe, surtout l'actualité locale ici dans la région de Québec. C'est le mandat de notre radio. On est une radio de Québec. On veut parler de Québec. D'ailleurs, Mathieu, je m'ennuie tellement d'un point de presse du maire Marchand.
Hey, ça fait longtemps, croire. Hein?
M'ennuie
c'est,
notre mère.
C'est mi-juillet, la dernière fois qu'on en a eu un. Fait que ça fait un bon mois.
C'est ça. Je m'ennuie vraiment, vraiment de notre mère Marchand. Je souhaite qu'il termine ses vacances avec Monique. De toute façon, Monique reprenait les ondes, je pense, à Montréal aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Dans fait l'émission du retour.
Normalement, on devrait revoir Bruno Marchand sortir prochainement.
Enfin!
Dans le pire des cas, Jeff, c'est conseil municipal mardi prochain. Fait que dans le pire des cas, on va le voir là, Bruno.
C'est ça. 418-971-1021. Hey, textez-moi donc, vous êtes où présentement? Vous êtes-vous à job? Quel job vous avez? Êtes-vous sur la route? Bien, évidemment, si vous êtes sur la route, faites texter le passager, là. Êtes-vous en vacances? Textez-moi donc ça, parce que nous, on est là pendant 8 heures de suite à la radio. On en a déjà 6 de fait. On se plaint pas parce qu'on adore notre travail. C'est un privilège de vous parler à chaque jour. L'Hotline Communication m'a fait un beau cadeau dans ma vie en me mettant à la radio. Mais textez-moi donc où vous êtes, quel emploi vous faites. Ça m'intéresse vraiment d'en savoir davantage sur nos auditeurs et nos auditrices au 418-971-1021. Mathias, circulation?
Oui, pas le choix de faire un peu de circuit. Capitale direction ouest, auteur Robert Bourassa. Il y a un ralentissement qui s'est créé au cours des dernières minutes. Ça remonte jusqu'à Laurentienne pour le moment. En parlant de Laurentienne en direction sud, quand même un peu d'attente pour accéder à Capitale. On va en profiter pour quand même faire un tour sur la rive sud. Là. Vous ne serez pas étonnés. La 20 direction ouest, oui. Ah. La 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy. C'est au rouge actuellement. Même chose pour Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve. Si jamais vous avez des informations, 418-971-1021 par texto. Puis profitez-en. En plus de nous dire ce que vous faites, dites-nous donc depuis quelle heure vous nous écoutez, moi et Jeff.
Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Est-ce que vous êtes avec nous depuis 6 heures ce matin, depuis 10 heures, depuis 9 heures, ou vous venez tout juste de vous joindre pour l'émission du midi?
Yes, 418-971-1021. Il y a Alex qui écrit « Hey, il faudrait que t'enquêtes, Jeff, savoir pourquoi on paye 300$ de plus par enfant au hockey mineur dans Bellechasse. » Ben, c'est une méchante bonne question, Alex. Pourquoi ça coûte aussi cher à Bellechasse qu'à Charlebourg? Hey, moi, je le sais que pour avoir été dans le CA de hockey Charlebourg durant à peu près 8 ans. M'a dire une affaire, notre DG s'est compté. C'est aussi simple que ça. Et on s'est donné comme mission, le CA, de toujours demeurer avec des augmentations acceptables des frais d'inscription pour ne pas perdre de joueurs. Fait que là, comme je l'ai dit, moi, ça fait 12 ans, puis j'ai eu 20$ d'augmentation en 12 ans. Pas pire, hein? Quand même.
C'est bien.
Pas très cher. Alors, continuez nous texto 418-971-1021. Météo, bien, les averses, c'est terminé. Ça va être un ciel parsemé de nuages et de soleil pour le reste de la journée. On annonce 25 degrés au maximum et 33 degrés ressentis avec l'humidex. Demain, c'est 25 degrés, alternance soleil et nuages, humidex à 30. Mercredi, ce serait de la pluie à 24. Et à plus long terme, c'est 22 et 24 avec du soleil pour jeudi et vendredi. Donc, somme toute, une belle semaine sur Québec.
Hey, on a du monde qui participe au marathon de radio avec nous autres. Salut Pascal qui est avec nous, Jeff, depuis 7h30.
Yes,
Carl, depuis 5h30 ce matin. Jean-Simon qui nous dit qu'il est représentant sur la route, fait qu'il nous écoute tout le temps. Aussi, camionneur, j'écoute Boulevard depuis 3h30 ce matin. Du côté d'une auditrice qui nous écoute depuis son réveil à 6h45 du côté de Bréquéville en tricotant. Donc, beaucoup de personnes qui ont participé avec nous, Jeff, depuis les petites heures du matin.
Et les gens participent vraiment beaucoup par texto. D'autres gens qui sont là depuis 7h ce matin, l'écoute depuis 6h30, depuis 6h. Ah, vous êtes des lève-tôt, vous êtes avec nous. C'est donc bien plaisant de vous savoir là. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 102.1. C'est vraiment très apprécié d'être là. Hey, quelqu'un qui vient d'arriver, Kevin, à l'écoute depuis midi 5. Mais salut, Kevin. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être à l'écoute de l'émission. On en jase. Plusieurs façons de nous écouter d'ailleurs. BLVD.fm via notre web radio. BLVD 102.1 via notre application. Et également, si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison, vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Mathias, tu as vu le plan de mobilité, justement, que le PQ avait parlé la semaine dernière, donc une passe à la grandeur de la province pour, justement, 95 $. Eh bien là, aujourd'hui, Radio-Canada, via Thomas Gerbet, l'excellent journaliste, a chiffré le tout et on a dit que ça va coûter 77 millions par année au gouvernement. J'ai regardé, j'ai fait des petites recherches, puis je me suis dit, 77 millions, le gouvernement va essayer d'éponger le tout. Mais la situation est catastrophique en termes de transport en commun et de finances publiques. Puis je t'explique, au RTC, la dette est aujourd'hui à 132 millions de dollars, mais on prévoit un déficit encore d'environ 40 millions pour la prochaine année. Donc, on va être rendu avec une dette à peu près à 175 millions de dollars au RTC. Il va falloir se mettre à rembourser ça à un moment donné. Là. C'est une dette qui appartient à la ville aussi, là, soit dit en passant.
Puis ce serait beau de dire, hein, le RTC, c'est le seul réseau de transport en commun qui est en déficit au Québec.
Non.
Mais la réalité est tout le contraire.
C'est tout le contraire.
Ils sont tous en déficit.
Oui, à Laval, ça va être 41 millions de dollars qui est projeté comme déficit pour cette année. À Montréal, on est rendu à 379 millions de dollars en dette.
Fait que quand on regarde ces chiffres-là, concrètement, les déficits s'accumulent dans les réseaux de transport. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut se permettre de payer 15 $ de moins par mois à Montréal, 20 $ de moins par mois à Québec, 75 $ de moins par mois à Laval, 186 $ de moins par mois à Saint-Hyacinthe? Parce qu'avec le 95 $ par mois universel, en ce moment, c'est tous les réseaux de transport au Québec qui chargent au-dessus de ça, puis on est déjà en déficit.
Exactement. Puis là, c'est sans compter le 7 milliards de déficit en infrastructure à Montréal, parce que ça, Alex Laramie nous en a parlé quand il est venu pendant 4 semaines à Québec. C'est plus de la moitié des stations de métro qui sont dans un état, mauvais état ou très mauvais état. Et quand on parle de déficit d'infrastructure puis de ne pas avoir de vision, là, le métro de Montréal, comment ça, on n'a pas entretenu ça?
Une infrastructure qui est nécessaire, là. Qui est nécessaire à Montréal. Là. Pas de métro, bonne chance de te déplacer.
Ben, exactement. Fait qu'on n'a pas entretenu notre métro de Montréal. Alors, tu sais, puis c'est pour ça que je voulais avoir l'opinion des auditeurs là-dessus. 418-971-1021. Quand que le PQ a fait son annonce la semaine dernière, plusieurs auditeurs avaient dit « Hey, Kim, c'est une bonne idée, ça. Ça pourrait inciter les gens à prendre le transport en commun. » Et j'étais de ces personnes-là. Mais avoir le trou budgétaire que ça va creuser, avoir la dette actuelle qu'on a au niveau des sociétés de transport, je pense qu'avant tout, il faut faire un ménage dans nos sociétés de transport. Puis quand je parle de ménage, c'est à plusieurs égards. Premier égard, ben, tu, ça a été prouvé dans le fameux rapport qui a été fait au niveau, puis surtout ici à Québec, il y a trop de gestionnaires dans le transport en commun pour le nombre d'employés qu'il y a, donc à un moment donné, le transport en commun, c'est d'offrir des services. Ben, il va falloir augmenter les employés qui offrent le service puis diminuer ceux qui le supervisent ou qui travaillent dans les bureaux. Ça, je suis convaincu de ça. Je le sais que ça fait des malheureux quand que je parle de ça, mais il faut revoir l'entièreté des services à la province pour que ça nous coûte moins cher. Donc, des endroits, malheureusement, où il y a peu de gens qui prennent le transport en commun, je le sais qu'on a la vision de dire si on met du transport en commun, le monde va embarquer dans le transport en commun, mais là, les endroits où ça fait 4, 5, 6, 7 ans qu'on a des autobus, mais qu'il n'y a pas de monde qui embarque dedans, bien, il va falloir réduire des fréquences, il va falloir couper des parcours. On n'a pas le choix, on est rendu là avec les déficits accumulés des sociétés de transport.
Mais de toute façon, logiquement, si tu habites en banlieue, ou du moins en haute banlieue à Québec, tu as ta maison, il n'y a aucune densification, tu n'as pas nécessairement de trafic dans le secteur. Pourquoi des gens prendraient le transport en commun?
Exactement.
C'est sûr que dans des secteurs où qui ne sont pas densifiés, ben tu peux pas avoir tu peux pas desservir ces secteurs-là d'une manière efficace de toute façon.
Exactement. Donc, va falloir, on n'aura pas le choix. On va être là à couper des services. Puis honnêtement, au RTC, remplacer des autobus par des flexibus, je trouve que c'est une belle piste de solution à mon sens. Par contre, l'une des problématiques que je pourrais dire, c'est que là, on avait des chauffeurs en sous-traitance. Puis là, ça devient rentrer dans la convention collective. Fait qu'on va payer cher le chauffeur qui va être dans le petit autobus. Ça me dérange un peu.
Tu sais, l'idée du PQ. Une passe universelle à 95 $, tu t'en vas n'importe où, bam, tu peux prendre le métro, tu peux prendre le bus à Québec. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous pose la question. Moi, ma réponse, c'est oui.
Oui.
Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Maintenant, je vous pose cette question-là. Est-ce que c'est un luxe qu'on peut se permettre en prenant en compte que toutes nos sociétés de transport font déjà des déficits?
Mm-hmm. Puis pourquoi je parle de coupure dans les organigrammes? Je parle de coupure de service. C'est tout simplement parce que oui, ça serait le fun que l'utilisateur payeur en vienne à payer un 50, un 60% de ce que ça nous coûte en transport collectif. Le problème, c'est qu'il faut couper en premier lieu parce que juste la part générale ici à Québec est rendue au-dessus de 100$.
Mais non, c'est ça.
Fait que là, à un moment donné, là, t'sais, c'est le transport en commun, là. Elle peut pas coûter par mois au-dessus de 100$. Là.
Ça devient plus attrayant.
Exactement, ça devient plus attrayant. Donc, faut, en premier lieu, faire des coupures dans le transport en commun. Puis, je le répète, faire des coupures au niveau de la strate de gestionnaire, faire des coupures dans des services inefficaces. Quand on va avoir fait ces coupures-là, d'après moi, on va avoir éliminé les déficits. Fait que là, si on élimine les déficits, il reste juste une dette, puis là, on pourra commencer à se faire un plan pour rembourser la dette. Moi, ça me dérange pas là, que l'RTC rembourse sa dette sur 20-25 ans. Là. Je n'ai pas de problème avec ça si le plan est efficace. T'sais. Puis là, après ça, si on a fait ça, bien, c'est sûr qu'automatiquement, la part de revenus qui rentre de l'utilisateur va augmenter. T'sais, présentement, c'est à peu près à 30 % à Québec. Ouais. Bien, si on diminue nos coûts d'exploitation puis nos coûts en ressources humaines, bien là, on va peut-être passer à 35, à 40, puis on ne sera plus obligé d'augmenter la part s'en fout. Donc, ça va devenir plus attrayant en même temps de prendre le transport en commun pour les gens.
Donc, ce que tu proposes, c'est qu'on regarde un système qui financièrement marche pas, puis qu'on dise on va trouver un moyen de le faire fonctionner financièrement.
Exactement.
Ce que propose le PQ, c'est de dire voici un système qui ne fonctionne pas financièrement parlant, on va faire en sorte d'avoir encore moins de revenus.
Mm-hmm. Exactement. T'en plains ça? En plein ça qui fonctionne pas, je trouve, dans le plan du PQ. Puis, tu sais, on est rendu là. On est rendu, même si c'est du transport en commun, même si c'est du transport collectif, on est rendu à un moment où la situation budgétaire est tellement difficile qu'il va falloir prendre des choix difficiles. Et ça, c'est vrai pour les sociétés de transport en commun, c'est vrai pour le gouvernement, puis c'est vrai pour nous personnellement parce que je fais juste regarder là, au niveau de la hausse des dossiers d'insolvabilité dans le Journal de Québec, une hausse de 10 % des consommateurs au Québec. Ben, qu'est-ce que les consommateurs au Québec font à l'heure actuelle avec une inflation à 3 % avec justement le coût de l'épicerie qui a augmenté? Hey, c'est 1986 consommateurs québécois qui ont fait des propositions à leurs créanciers en juin. C'est énorme, là.
876 qui ont fait tout simplement faillite.
C'est plus 6,7 %. Puis c'est pas jojo à la grandeur du Canada non plus parce que au niveau d'insolvabilité, c'est 14,3 % des gens en Ontario, c'est 28,4 % des gens au Nouveau-Brunswick.
De plus en plus de personnes qui sont en difficulté financière partout à travers la province puis même le pays.
Mm-hmm. Dans les entreprises, au niveau de l'insolvabilité, c'est une hausse de 5,5 % à la grandeur du Canada. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit serrer la ceinture partout. Fait que si le citoyen qu'on est, le payeur de taxes, le payeur d'impôts doit se serrer la ceinture, doit se prendre une deuxième job, doit compter davantage, bien, il faut que nos sociétés de transport en commun fassent la même chose. Parce que je l'ai dit, c'est 100$ la part générale. On ne peut plus continuer à demander du 100, 105, 110$ de passe en transport en commun à des gens qui font déjà l'effort de se serrer la ceinture. On n'a pas le choix. Faut que les sociétés de transport aussi prennent leurs responsabilités. Fait que la proposition du PQ, je la trouvais très bonne à première vue, mais quand tu regardes derrière et tu regardes les chiffres par rapport à cette proposition-là, on se rend bien compte que malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Est-ce qu'on va y être un jour parce qu'on va avoir suffisamment fait de coupures dans les sociétés de transport en commun? Je le souhaite, mais pour le moment, c'est impensable de le faire.
Et le PQ, c'est pas le PQ qui a chiffré son annonce, là, je tiens à le préciser. C'est Radio-Canada qui a fait l'exercice. Du côté du Parti québécois, on disait « Ah, on veut attendre de publier notre cadre financier complet avant de chiffrer une annonce. » Je sais pas si tu te situes à la même place avec moi, Jeff, mais pour moi, en campagne électorale, dès que tu fais une annonce, pour moi, il faut qu'il y ait un chiffre
faut que
qui suive cette annonce-là.
Ben oui, tu sais, je vais reprocher au PQ de ne pas avoir chiffré son annonce, autant que je vais reprocher au PCQ, dans ses coupures de 47 milliards sur 5 ans, de ne pas vraiment nous faire la démonstration.
Mais encore une fois, au moins, c'est chiffré.
Tu as raison.
T'sais, au moins, on n'a pas juste dit « on va faire des coupures, on va faire ci », tu sais, on a chiffré 47 milliards, on va aller chercher 20 milliards dans tel fonds, 23,5 milliards dans tel fonds. On ne nous a pas regardé puis on nous a dit « oh non, mais vous allez voir notre cadre financier ». On nous a mis sur la table ce qu'on allait essayer d'aller sauver en argent. Pour moi, quand tu fais une annonce, une promesse, il faut que ce soit accompagné d'un chiffre automatiquement.
Bon point également d'un auditeur ou d'une auditrice qui dit les fonds de pension coûtent combien dans les sociétés de transport en commun? En effet, est-ce qu'il va falloir revoir aussi les conditions de travail? Est-ce qu'il va falloir diminuer les assurances, diminuer les fonds de pension? C'est une excellente question. Ça fait partie justement des dépenses qu'il faut regarder attentivement dans nos sociétés de transport en commun. Notre nouveau rendez-vous avec Antonine Niaccarini, c'est à 12h30, le caucus, puis j'ai promis à Anto d'être pile poil à 12h30. Fait que Mathias, on a un petit 3 minutes de manchette.
Oui, puis on commence ça avec le rapport de la vérificatrice générale du Québec qui a été déposé concernant le plan caquiste pour atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 4 ans. Ce qu'on indique, c'est que le plan est plausible, mais en ce moment, il y aurait un manque à gagner de près de 5 milliards de dollars à trouver d'ici 2030. Du côté du ministre des Finances, Éric Girard, on estimait ce manque à gagner-là à 2 milliards. Je vous respecte. La VG a dit non, c'est 5 milliards qui manquent pour les 4 prochaines années.
Un gouvernement de comptables qui nous disait.
Mais c'est 2,5 fois plus élevé que les projections gouvernementales. Ouais. Ce qu'on dit aussi du côté de la VG, c'est que, bon, si on veut arriver à mettre ça en place, on va avoir besoin de coupures budgétaires similaires à ce qu'on avait eu en 2015-2016 sous le gouvernement de Philippe Couillard. Une rentrée qui va être chamboulée pour certains parents, alors qu'une dizaine de jours seulement avant la rentrée à l'école primaire Saint-Fidèle, on nous annonce que les élèves, ils pourront pas revenir à l'école primaire parce qu'on a découvert des fissures dans l'immeuble à la suite de travaux d'analyse de l'immeuble. Ce qu'on va faire, c'est que ces 345 élèves et 45 employés-là, on va les installer au centre Saint-Fidèle pour le début de l'année, qui est tout juste à côté de l'école primaire. Puis là, vous me dites, c'est fabuleux, on avait des locaux disponibles. Eh bien non, c'était 12 groupes d'élèves du secondaire qui étaient censés occuper ces locaux-là. Donc on prend ces 12 groupes-là, puis on les envoie au centre de formation professionnelle de Limoilou. Et je termine avec l'entente de Churchill Falls qui sera signée aujourd'hui à St. John's. D'ailleurs, il y a présentement un point de presse en direct. On peut y voir Tony Wakeham, le premier ministre de Terre-Neuve, Christine Fréchette qui est également présente, de même pour le premier ministre du Canada, Mark Carney.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Vous l'avez entendu dans le retour pendant la période estivale. Elle a pris 2 semaines de vacances très méritées. Elle est de retour dans l'émission On en jase dans le segment Le caucus qui sera à 12h30. C'est Anthony Niaccarini immédiatement après cette courte pause. Le caucus avec Anthony Niaccarini maintenant à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102.1 dans l'émission On en jase. Un 20 minutes d'actualité politique. Anthony nous décortique tout ça parce que c'est notre spécialiste. Je suis certain que les auditeurs sont très heureux de t'entendre. Dites-le au 418-971-101. Anto, t'as passé des belles vacances?
Oui, très belles vacances. J'ai cumulé beaucoup de choses à dire. Là, il va falloir que je me gère pour un 20 minutes de segment politique.
Excellent.
Mais on va y arriver.
Non, mais moi et Mathias, on fait 8 heures en ligne de radio. Fait que vas-y, parle pendant une demi-heure.
Allez prendre un café. Moi, je vais jaser avec les auditeurs. Il n'y a pas de problème. Mais non, restez, s'il vous plaît.
Yes, t'as aimé ton expérience dans le retour cet été?
Oui, écoute, ça m'a fait un bon 16 heures de radio par semaine.
C'est ça.
Fait que pour moi, c'est...
Puis là, t'as jasé d'autres choses que politique.
Oui, beaucoup de festivals, de nouvelles insolites. Il faut être imaginatif l'été.
Ben oui.
Mais il y avait quand même pas mal de politique.
Ben, clairement.
Clairement, on n'a pas un été mort, là.
Mais là, on est en pré-campagne, puis là, on va rentrer dans la campagne. Mais là, parlant de pré-campagne, Mathias, quelles sont les dernières nouvelles ou les derniers développements qu'on a sur l'entente Churchill Falls? Parce que là, je vois à la télé Tony Wakeham qui parle, avec Christine Fréchette à sa droite, Mark Carney à sa gauche.
De l'eau en arrière d'eux,
de
c'est beau,
de l'eau en
là.
Arrière, à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Oui, bien, on a pas mal, beaucoup de détails là, qui sont sortis au cours des dernières minutes. Ce qu'on savait sur le projet, sur cette nouvelle signature d'entente entre le Québec et Terre-Neuve, c'est qu'on prévoyait avoir beaucoup plus d'énergie qu'initialement. Donc, c'est 10 000 mégawatts que le Québec recevra, qui provient justement des installations de God Island et de Churchill Falls. On prévoit aussi la construction d'un parc éolien au Labrador. Ce qu'on nous informe, par contre, c'est que oui, on va avoir plus d'énergie, mais que ça va nous coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Finalement, le Québec qui paiera 6 cents le kilowattheure jusqu'en 2077. Donc ça, c'est une moyenne sur toutes les années. Donc, j'ai pas les chiffres exacts, mais probablement qu'on va payer un peu moins au début et un peu plus par la suite. Mais c'est 6 cents le kilowattheure en moyenne jusqu'en 2077. Par la suite, Hydro-Québec évalue que les investissements dans ces différentes centrales électriques-là totalisera un total de 70 milliards de dollars pour Hydro-Québec. Initialement, on avait prévu investir 25 milliards. Donc là, on a déjà un bon 45 milliards, mon chiffre était bon, 45 milliards supplémentaires qu'on va devoir investir. On va toutefois bénéficier d'une aide totalisant 6,5 milliards du côté du gouvernement fédéral. Donc, en gros, c'est ça qui ressort. Oui, on a plus d'énergie, mais pour l'instant, ça semble nous coûter beaucoup plus cher que ce que ça nous coûtait.
Antonine, la semaine dernière, je disais que c'était un coup de circuit pour Christine Fréchette d'arriver en campagne électorale et de montrer encore une fois que la troisième voie, ça fonctionne. Puis je me dis que la CAQ est en train de piger dans le buffet du Parti libéral au lieu du Parti québécois. Je me trompe-tu?
Bien, effectivement, parce qu'on se rappelle, la seule annonce vraiment de contenu que Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a fait cet été, c'était pour dire que lui allait faire des alliances avec les autres provinces, qu'il allait bien s'entendre avec le fédéral. On n'a pas trop compris comment exactement ça allait être différent d'avec la CAQ, mais c'est exactement ce que Christine Fréchette illustre. C'est que tu n'as pas besoin d'être le Parti libéral nécessairement pour réussir à créer des alliances, à faire des deals avec d'autres provinces ou pour recevoir de l'argent du fédéral, c'est au rendez-vous. Maintenant, dans les détails, parce que là, on est dans l'impression générale, Christine Fréchette, elle joue à la première ministre jusqu'à la dernière minute, c'est très bon pour elle, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a exactement dans les petits caractères de l'entente? C'est sûr qu'il va falloir la décortiquer cet après-midi. Mathias le disait, on parle de plus d'énergie, on paye un peu plus cher. Là, c'est sûr que faut quand même comprendre que c'est des bons prix. Là. À comparer de l'entente de 1969, c'est sûr que c'est davantage parce qu'on on payait des peanuts.
Hey, justement, puis par rapport à ça, on a eu Pascal Paradis en entrevue dans Marceau le matin la semaine dernière. Puis il disait, ben voyons donc, on avait une entente jusqu'en 2041. On aurait dû garder cette entente-là. Puis là, il déchirait sa chemise, évidemment, sur le Canada.
Bien sûr.
Mais moi, je me dis, la pièce maîtresse du plan d'Hydro-Québec, c'est Churchill Falls, du plan de déploiement d'Hydro-Québec. On va se le dire en français, là, on ne peut pas continuer à crosser jusqu'en 2041 puis souhaiter revoir de quoi. Là.
Bien, il faut aussi comprendre le ressentiment à Terre-Neuve-Labrador par rapport à cette entente-là. Nous, on s'en rend pas compte. Là. T'sais, je fais un vox pop dans la rue, je dis « Pensez-vous que Terre-Neuve sont fâchés après nous? » Les gens sont même pas au courant de ça. C'est une blessure très profonde. Terre-Neuve s'est sentie humiliée. Et un adversaire ou un partenaire humilié, c'est quelqu'un qui est dangereux.
Okay? Ben oui.
Puis on peut s'en foutre. On peut dire, ah, c'est pas grave. Puis le PQ a raison. C'est cette entente-là qu'on payait des 0,41 cents du kilowattheure.
Ça fait pas de sens.
Ça faisait pas de sens. Si elle avait tenu jusqu'en 2041, on serait arrivé aux négociations. Ils auraient été encore plus fâchés.
Ben oui.
On comprend. Puis là, je reviens un peu en arrière, là, parce qu'il y a une première entente qui a été signée en 2024 par François Legault et l'ancien premier ministre libéral Andrew Furey. Andrew Furey avait, pendant la conférence de presse, déchiré, il avait pris des papiers, là, il s'était imprimé l'entente, puis il l'avait déchiré en conférence de presse, qui avait été vu comme un geste un peu baveux, mais hautement symbolique, qui démontrait à quel point les Terre-Neuviens voulaient tourner la page sur un chapitre qui était humiliant à leurs yeux, à eux, et qui était très avantageux pour nous. Mais la tension aurait continué de monter. Fait que c'est une stratégie. Le PQ dit on aurait pu garder cette entente-là, il n'y a rien qui presse. OK, mais sur quoi alors repose votre plan de développement économique? Celui de la CAQ, on le connaît. avec les défauts qu'ils ont à la CAQ, la filière batterie qui a été un échec. Tout ça est vrai, mais ils ont un plan de développement économique qui repose sur davantage d'énergie, de la décarbonation, électrification des transports, des bâtiments, des projets de transport électrique. Bien, ça prend du jus pour nourrir ces projets-là.
Bien, c'est là que je trouve que le PQ l'échappe, puis je les trouve encore dans leur petite chicane avec le Canada, parce que le PQ veut développer aussi les projets économiques d'énergie propre. Bien, puis, ça passe par là.
Ou alors, donnez-nous l'alternative. Puis, tu sais, des fois, les partis qui sont dans l'opposition, ils vont avoir des solutions plus magiques un peu. C'est normal. Ouais. C'est le jeu politique. Mais de dire, bien, on va investir dans nos PME, puis si on devient indépendant, on va moins verser d'argent à Ottawa, ça balance pas. Là. Ça donnera pas autant de jus économique et énergétique qu'une entente comme celle-là. Je trouve que le fait que Christine Fréchette règle avant l'élection, moi, je trouve que ça aide le PQ, Jeff. Parce qu'ils vont pouvoir dire, regardez, c'est des écœurs, hein, ça n'a pas d'allure. En plus, Terre-Neuve nous a volé le Labrador, mais ils n'auront pas à offrir une solution de rechange parce que l'entente est signée. Ils vont pouvoir peut-être dire, nous, on ferait des ajustements, mais d'un fait, c'est réglé.
Oui, ça aide le PQ. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, maudit que le PQ m'a énervé la semaine passée.
Cette entente-là?
Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, on cherche des solutions concrètes, on veut avancer, on veut s'électrifier. Puis eux autres, tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'est « je vais brûler le drapeau du Canada », là, tu comprends, j'ai l'image.
Oui, une petite caricature ici. Mais oui, t'as raison. Puis moi, j'ai l'impression que la majorité des gens, c'est sûr que les gens, ils vont pas lire l'entente avec chacune des phrases.
Non.
Mais l'impression générale que ça donne, c'est qu'on va avoir plus d'énergie. Pour un prix qui est correct, même si on paye... Tu sais, il y avait une affaire politique là-dedans, parce qu'après la signature de l'entente de 2024, ben Andrew Furey a annoncé qu'il ne se représentait pas. Et le chef conservateur, son adversaire politique, a exploité le ressentiment des Terre-Neuviens.
Oui, ils ont fait un référendum.
Oui, on va réanalyser l'entente, on va faire un référendum. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable d'aller chercher davantage. Donc là, il fallait trouver ce qu'on appelle en bon français des « face savers » pour tout le monde. Évidemment qu'ils sont allés chercher des gains supplémentaires. Mm-hmm. Ça ne fait pas de cette entente-là une mauvaise entente pour autant. Moi, je trouve que c'est une bonne entente. La seule affaire, c'est que, tu sais, je ne suis pas ingénieur électrique, là, mais quand je vois qu'on rajoute encore plus d'énergie que ce qui était prévu dans la première entente, je veux juste vous dire que ça ne se fait pas comme ça, là, techniquement. Là.
Non.
Fait que soit qu'ils ont trouvé plus d'eau, là, ou soit ça va coûter cher, les amis. Là.
En effet.
Il y a quelque chose qui ne balance pas, mais bon, écoutez, quand on sera rendu là, Christine Fréchette ne sera même plus là.
C'est ça, exactement. Hey, tu l'as dit, c'est un gros été en politique. Ça a brassé beaucoup. On a eu deux sondages qui ont sorti, justement, la semaine dernière. Sondage léger, sondage Palace. Le léger est plus avantageux pour la CAQ au niveau du vote francophone. Le PQ est toujours en tête, mais on parle d'un gouvernement minoritaire. On va se le dire, on va être une méchante belle campagne électorale.
Hey, écoute, comparé à 2022, on est complètement ailleurs.
Ben oui.
2022, on le savait que la CAQ allait
gagner.
Ah, c'était
plate, 2022.
Là. Ben, c'est ça. Il n'y avait pas d'enjeu.
Le seul enjeu, c'était de savoir si le PQ allait survivre. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que 4 ans plus tard, le PQ pourrait avoir des bonnes chances d'être le gouvernement.
C'est la roue politique qui tourne. Le PQ avait de la misère à trouver des candidats. Il présentait des étudiants de cégep. Là, c'est le contraire.
Ah, non, ça, c'est la CAQ.
Ben, regarde, c'est ça. La roue tourne toujours. Écoute, le Palace qui est sorti le 2 août dernier, ce qui était surprenant, c'était de voir le PLQ qui avait pris des points supplémentaires. Puis on se demandait qu'est-ce que le PLQ avait fait pendant l'été pour mériter des points de plus.
Bien, Charles Meilleur avait dit « je suis là ».
Ah, c'est vrai, t'as raison. Ben oui.
Donc là, les gens disent « il existe
». On l'aime, lui. Il est là.
Il est là.
Où? Il est là.
Quelle mauvaise
le léger, le léger qui est sorti quelques jours plus tard était un peu plus normal, entre guillemets, qui remettait le PLQ à 24% dans le vote général et qui garde le PQ en pôle position. Puis effectivement, la CAQ est en meilleure position. Donc, ça peut sembler pas beaucoup de différence de points, mais en termes de sièges... Ça change tout, parce que tout est dans le vote francophone.
Ben
quand on vous présente les sondages, on vous parle toujours des électeurs en général, mais quand tu te concentres sur le vote francophone puis comment ça se distribue dans les circonscriptions, ça peut faire toute la différence. En ce moment, dans les projections, la CAQ a 6 sièges. C'est pas énorme, là.
Non.
Mais avec le sondage du Palace, on était plus comme à zéro. Là.
C'est ça, exactement. Donc, sauvera en quelque sorte un peu la mise, au moins le parti. Je veux te parler de James Hughes, le candidat du PLQ. Moi, je l'appelle le Éric Boulay de Montréal, là,
parce que c'est
exactement ça. Je l'ai eu en entrevue dans Marceau le matin quand je remplaçais Yannick Marceau. ça nous prend plus de gens comme ça en politique.
Bien, c'est ça. Peu importe le parti politique pour lesquels ces gens-là, qui sont plus issus du monde communautaire, de l'aide, ouais. Ce qu'on appelle des candidatures sociales,
mm-hmm.
Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'engagent puis qui font le pas supplémentaire vers la politique. Dans un monde où il y a tellement de cynisme puis que c'est très imparfait, la politique, quand je vois ces gens-là qui ont contribué d'une autre manière, mais qui se disent « Maintenant, je veux aller de l'autre bord
ouais.
et aller faire des politiques publiques », on ne peut que respecter ça. Donc ça, c'est une des bonnes candidatures que le PLQ a présentées dans les dernières semaines. Là, James Hughes, qui est à la tête de la mission Old Brewery, qui se présente dans Vaudreuil. D'autres candidatures qui ont retenu mon attention dans les derniers jours, bien, Michel Leblanc aussi, du côté des libéraux,
bien sûr.
C'est un classique, les chambres de commerce. Souvent, c'est un tremplin vers une carrière politique.
Ah oui, tiens, Marie-Josée Morancy, rendue à Charlebourg.
Puis j'allais t'en parler de Marie-Josée Morancy, parce que dans la région, à date, est-ce que tu vois d'autres candidatures aussi vedettes, entre guillemets?
CAQ, non. On tente de parachuter quelqu'un dans Vanier-les-Rivières qui vient de Montréal. Je pense pas que ça fonctionne à Québec quand tu parachutes, ça fonctionne
beaucoup.
C'est
plus difficile. Puis tu sais, être parachuté d'un quartier à un autre, ça va.
T'sais, oui,
mettons
oui,
que tu
ben
te
oui,
présentes
ben
dans,
oui, ben
dans
oui,
Charlebourg, mais que tu habites à Sillery, ça change pas grand-chose. Bien, quoi qu'il y en a que ça peut déranger, mais ça sera pas un impact terrible. Mais de Montréal, c'est sûr que ça passe toujours moins bien. La CAQ qui présente beaucoup d'employés politiques. Il y a Nicolas Lachance dans le Journal de Québec ce matin qui les colligeait pas mal toutes. Ouais. Puis ça fait effectivement pas mal d'anciens conseillers politiques, attachés de presse, directeurs des coms et directeurs de cabinet qui se lancent pour la CAQ. C'est pas que c'est des mauvaises candidatures, mais c'est sûr qu'on voit que la CAQ a de la difficulté là, à recruter.
Bien, c'est qu'on essaye aussi de nous vendre un van nouveau, de renouveau, la nouvelle CAQ. Bien, je devrais dire la nouvelle équipe Christine Fréchet.
Exact.
Mais après ça, c'est tous des employés qui étaient déjà à l'interne.
Oui, donc ça peut effectivement renforcer l'idée que c'est la bonne vieille CAQ, un peu comme la pub du PQ avec le sandwich. Cela dit, je pense que si certains d'entre eux sont élus, il y a des personnes de qualité à travers ça. Mais c'est sûr que ça fait le jeu des adversaires politiques de dire, voyez, ils présentent des staffers parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions comme telles. Le PQ, ça y va aussi pour les candidatures cet été. Je pense, Stéphanie Martin, tu disais là, qu'il va.
Oui, on va la recevoir tout à l'heure à 13h. Est-ce que Elsie Lefebvre est une opportuniste de retourner au PQ?
Je pense pas. Moi, je pense qu'Elsie Lefebvre, c'est une vraie péquiste depuis toujours. Dans ses positions aussi comme chroniqueuse, c'était assez évident.
Il y a personne qui est tombé
en bas de sa chaise.
Quoique, j'oublie son nom, mais la conjointe à Mathieu Bock-Côté que j'ai écouté cet été, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, chie de l'or.
Ah bon?
Quand on l'écoute.
Ah oui, oui.
Oui, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le roi.
Il ne peut rien faire de mal.
Non, non, il est sur le trône, le roi, il ne fait rien de mal.
Écoute, c'est le fun pour un politicien d'avoir des gens comme ça qui te trouvent que tu as toujours raison. Moi, tant mieux pour eux, alors qu'il y a toujours des gens pour te critiquer. Alors,
c'est comme Éric Duhaime fait rien de mal dans d'autres stations de radio à Québec.
Exactement.
Là, au niveau de l'ajout à LCN, Paul Saint-Pierre Plamondon était vraiment sur un
pied. Mais heureusement, nos auditeurs, ils écoutent plein de choses, ils écoutent plein d'opinions différentes, puis ils se font leur propre opinion.
Ouais.
Jean-François Cloutier, du journal aussi. Ah, le PQ qui présente pas mal de journalistes.
Ben oui.
Ce qui peut faire sourciller des fois.
Ben, ce qui est de valeur là-dedans, moi je le dis, c'est que ça laisse place à ce cynisme-là ou à ce complotisme-là de « on sait bien, les médias penchent toujours du même bord » alors qu'il y a des médias pour tous les partis politiques.
Puis ils se présentent, ces anciens journalistes-là, pour plein de partis politiques.
C'est
Mais tu vois, quand par exemple, on me pose la question « est-ce qu'Elsie Lefebvre, il y a un problème d'éthique » elle faisait de la chronique, là, sans en politique. Mm-hmm. Moi, je trouve ça plus transparent quand c'est des chroniqueurs, parce qu'ils donnent leur opinion. Tu la connais, leur opinion.
Vraiment.
Alors que des journalistes qui sont plus des reporters, bien, c'est sûr que là, le monde, des fois, ils font le saut de savoir, ah, bien, il y avait des opinions politiques, cette personne-là, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'ils faisaient mal leur travail? Pas nécessairement. Puis de toute façon, je veux dire, on est tous des humains, on a tous nos parcours de vie puis nos valeurs. Même quand tu deviens journaliste, c'est sûr que tu les as encore à l'intérieur de toi, puis tu essaies de faire ton travail avec le plus d'objectivité possible.
Ouais, mais tu sais, de toute façon, Elsie Lefebvre, dans le fait qu'elle était chroniqueuse, on savait qu'elle venait du PQ.
Une ancienne députée.
Fait que là, à un moment donné, tu sais de quel bord elle penche. Là. Il y a juste ça qu'on ne sait jamais. Toi, tu as travaillé au PQ, puis à CAQ, on ne sait pas.
Moi, ouais, c'est ça.
On va le savoir le jour qu'elle va se lancer.
Ouais.
Ben, ça serait étonnant que je devienne libérale demain matin, mais écoute.
Ben, ça serait très étonnant, en effet. Là.
Peut-être dans un Québec pays. Qui sait?
Ah, peut-être Québec
solidaire. Peut-être que dans un Québec souverain,
Peut-être Québec solidaire.
Là, ça serait complètement différent. Ouais. Non, mais je pense que les gens savent que je suis une personne nationaliste. Je pense que les gens savent que je pense que le Québec devrait être un pays, mais que c'est pas non plus, là, ça ne me réveille pas la nuit pour haïr le Canada. C'est ça, être chroniqueur. Hein. On a notre couleur. En même temps, moi, je suis pas le porte-parole d'aucun parti. Fait que quand c'est pas bon, je dis pas bon. Puis quand je trouve ça bon, je dis que c'est bon.
En plein ça. Le jour où tu te présentes, par exemple, tu me dis je jurer avec toi.
Ah, oh, ça, c'est fait.
Ah, oh, ouais, on va faire ça. Rapport de la VG aujourd'hui sur les finances publiques.
Ouais.
Éric Girard dit qu'il reste juste 2 milliards à couper, mais elle a dit qu'il en reste 5.
Ouais, il y a comme
le gouvernement de comptables va avoir eu de la misère jusqu'à la fin.
Ah, mais tu sais, même les comptables ont des débats sur les normes comptables à utiliser.
Ben oui, en effet, la façon de...
Puis, tu sais que nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas de directeur parlementaire du budget comme à Ottawa, qui est, à mon avis, quelque chose dont on devrait se doter.
Tellement. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a proposé, d'ailleurs.
Absolument. Puis il y a plusieurs intervenants dans l'espace public, des chroniqueurs, des journalistes qui disent que ce serait vraiment utile. Des fiscalistes aussi, parce que...
Oui.
Ça nous donnerait une base plus commune pour analyser les chiffres. Tu peux faire dire n'importe quoi des chiffres dans la vie, OK?
Ça, c'est vrai.
Tu sais, on dit, oh, les chiffres sont têtus. Non, ils sont pas têtus pantoute, OK? Ils sont élastiques. Tu peux les revirer de tous les sens. En tant que spécialiste des communications et non de la comptabilité, je peux vous dire que j'ai reviré des chiffres de toutes les manières pour essayer de rentrer dans mon message au cours de ma carrière. Dans le fond, la VG fait un bon travail,
ouais.
Mais elle doit se fier sur ce que le ministère des Finances va lui donner. D'ailleurs, dans son rapport que j'ai lu rapidement, là, je vous ferai pas un résumé complet, mais je voyais qu'elle établissait certaines critiques sur la manière dont on lui présente aussi des chiffres. Parce que là, on s'en va en campagne électorale. Le rapport de la VG sur les finances publiques préélectorales, ça nous sert de base commune pour analyser les promesses des partis politiques.
Clair.
Parce que là, ils vont nous les chiffrer. Puis là, ils vont nous dire comment ils vont atteindre l'équilibre budgétaire. Mais... sur quelle base tu vas commencer, ben ça peut changer l'analyse des partis. Donc, ça nous donne un outil pour quand les partis vont nous présenter leur cadre financier. Puis là, je sais que ça fait bailler les gens, les cadres financiers. Je comprends. Mais c'est vachement important.
Ben oui.
Parce que tu me promets mère et monde.
Ça à base.
Combien ça va me coûter? Mm-hmm. Parce que c'est vous qui payez à la fin de la journée. Puis on a vu en 2025, pendant l'élection fédérale, des partis faire des cadres financiers tout à fait créatifs, où tout à coup, des dépenses devenaient des investissements.
Oui, ben oui, parce que
en comptabilité, là, c'est pas mal la base. Des dépenses, c'est des dépenses.
Le budget opération et le budget investissement.
Fait que là, le déficit devient bien moins grand, c'est le fun.
Ben c'est ça, parce que c'est des investissements. Hey.
Ouais, mon chum aussi me dit ça à la maison. C'est ça.
Ben oui, nous prendre une valise puis autre chose, c'est ça. Éric Duhaime, 47 milliards sur 5 ans.
C'est ambitieux.
Ben là, mais c'est parce que, tu sais, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Ah, je vais prendre le 20 milliards de subventions, ben... puis j'en donnerai plus. Tu sais, on parlait avec Julie White tantôt, candidate du PLQ, ex-DG de exportateur manufacturier. Tu sais, à un moment donné, tu vas augmenter la productivité, ben, il va falloir tu donnes des coups de main à tes entreprises. C'est ça. Si tu veux augmenter leur rendement, si tu veux augmenter les profits, si tu veux créer de la richesse.
C'est une position politique de dire je vais dégraisser puis je vais baisser l'interventionnisme étatique dans l'économie. Mais ça ne donne pas 47 milliards, je vous le dis tout de suite.
Ben non.
Ça ne donnera
d'accord.
pas ça.
Je suis d'accord.
Tu sais, j'ai vu son 47 milliards à Éric Duhaime la semaine passée. Bon, c'est sur 5 ans.
Oui.
Puis je me disais pourquoi pas 50? Pourquoi pas 60?
Ben,
pourquoi
c'est ça, pas 100? Carrière.
Ben honnêtement, si ça se faisait, ça se saurait.
J'ai juste hâte d'avoir le cadre financier de démocratie directe.
Ah, oh, je les avais oubliés. Je pense que on.
Je m'étais dit que je faisais une joke ces autres avec toi.
Ils sont exemptés, eux autres, c'est bien correct. Mais oui, les cadres financiers qui se respectent sont revérifiés par un auditeur externe indépendant d'habitude.
OK.
J'ai hâte de voir qui va vouloir mettre son nom sur un cadre budgétaire qui coupe 47 milliards
en
de
effet,
dollars.
T'as
je
raison.
Je comprends pas comment ça va arriver.
C'est un excellent point. On termine le caucus qui est maintenant à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase. Nouveau tarif à venir. Le monde souhaite un taco.
J'aime beaucoup les tacos. Je souhaite toujours des tacos. Moi,
J'en ai mangé samedi à La Belle et le Bœuf à Chicoutimi quand je suis allé voir mon gars. Il était bon en crime.
C'est bon, hein, des
tacos. Des tacos bavettes de bœuf.
Exact. Mais dans ce cas-ci, évidemment, on ne parle pas d'une recette Tex-Mex.
Non.
On parle de Trump qui always chickens out depuis qu'il est arrivé et qui nous menace de tarifs. Souvent, finalement, les tarifs n'ont jamais été déployés. Des tarifs de 50 % sur une multitude de produits, dont des produits qui sont normalement couverts par la CEUM. Ça, c'est un peu la nouveauté. Parce que depuis le début, tout ce qui était assez c'était comme un peu
exempté.
Trump dit qu'on est nasty. On est méchant, on est dégueu. Ouais. Donc, il veut nous imposer des tarifs supplémentaires. On fait des blagues avec les tacos puis les insultes de Trump, mm-hmm. mais ça serait pas vraiment des bonnes blagues si ça devenait vraiment déployé, étant donné que il y aurait des conséquences économiques importantes. Il y a plusieurs entreprises qui disent, moi, si ces tarifs-là sont déployés, je dois annuler un paquet de choses, je dois slacker des gens et il y a même des fermetures qui inévitablement auraient lieu. J'ai regardé, il y a un sondage Abacus qui est sorti sur justement la perception des Canadiens sur les négociations avec les États-Unis. J'étais quand même assez surprise de voir qu'il y a une majorité de gens, non, c'est pas vrai, 36 % mais c'est la plus grosse part des gens, qui voudraient qu'on fasse des contre-tarifs. Donc, eux trouvent que, dans le fond, Mark Carney n'a pas assez les elbows up.
Oui, mais c'est parce que les contre-tarifs, on a déjà l'inflation dans le piton. Là.
Ouais,
on perd déjà de l'argent dans
la
nos
question,
poches.
C'était, en plus, c'est en anglais, vous me permettrez une traduction.
Ben oui.
Répondre avec des contre-tarifs sur les produits américains, même si ça veut dire que les prix vont augmenter. Donc, les gens, il y a 36 % des gens qui sont prêts à faire des sacrifices.
Une personne sur trois.
OK. Il y a 30 % des gens qui pensent qu'on devrait continuer à négocier sans contre-tarif.
Mm-hmm.
Et tu as un 18 % qui dit donner ce que les Américains veulent, en gros. Là.
Ouf, ouais, ça, je suis pas là non plus.
Mais voyez-vous politiquement comment c'est dangereux pour Mark Carney?
Ben oui.
Tu as 36 % des gens qui disent hey, on y va pas assez fort, on fait trop de concessions. Puis tu as un 30 % des gens qui disent wow, attention, mm-hmm. là, on veut pas de contre-tarif parce que ça va augmenter.
Ouais.
Donc, honnêtement, là, je pense qu'un jour, là, pour l'instant, ça va bien, Mark Carney. Là. Mais je vois pas comment tu gagnes dans un jeu
non.
avec les perceptions comme celle-là. À chaque fois qu'on donne des concessions à Donald Trump, ça nous donne que dalle
ça,
en
échange.
Et là, on a concédé sur la taxe Netflix. Bon, les gens, c'était pas tout le monde qui était pour ça.
Wow.
Le pont Gordie Howe, c'est sûr, c'est gênant, mais tu sais, moi, je m'en rends pas compte un matin dans mon porte-monnaie. Là.
En effet.
La gestion de l'offre.
Oui, c'est ça. Là,
là ça commence à être un peu différent. On rappelle qu'il y a une élection partielle en ce moment dans Chicoutimi-le-Fjord. Où Mark Carney essaie d'aller chercher cette circonscription-là aux conservateurs. Je sais pas, moi, si le monde de Chicoutimi ne va pas vouloir envoyer un message à Carney. Parce que
en
je pense qu'il y a pas mal de monde fâché qu'on fasse autant de concessions.
Non, t'as raison. J'étais dans Chicoutimi en fin de semaine, puis on me disait que les gens pensent beaucoup que ça va être le Bloc québécois qui va gagner. Justement pour faire contrepoids à Mark Carney.
Message.
On se prend-tu un peu pour un autre, par exemple, au Québec, quand Christopher Skeet nous dit « Ah, le CIUM, nous autres, ça se peut qu'on n'embarque pas là-dedans. »
Ben, moi, je vois mal comment on peut jouer les isolationnistes
ben, moi
comme
aussi.
Ça. Par contre, dans le même sondage à Bacchus, j'ai été surprise de voir qu'il y a pas mal de monde, 55 % des gens qui pensent qu'on devrait passer à autre chose puis arrêter de penser qu'on va avoir un accord trilatéral avec les États-Unis et le Mexique. Alors que 34 % qui aimeraient qu'on sauve l'ALENA, la CEUM, puis qu'on continue. Donc,
fait que dans le fond, ces gens-là voudraient plus des ententes sectorielles?
Je pense que oui. Puis je pense que les gens, en fait, ont, puis c'est mon interprétation, la vôtre, vous, la mienne, mais j'ai l'impression que les gens se disent on ne peut plus compter là-dessus. Travaillons autrement. Créons d'autres alliances internationales.
J'aimerais ça t'entendre, Antonine, parce que tu parlais d'un sondage Abacus, puis je sais pas si c'était dans la même voie, mais Abacus a fait un sondage le 10 août dernier, puis on voyait que le Parti libéral, au Québec en particulier, avait perdu 11 %
Ouais.
Il était passé de 48 % à 37 % Donc, on commence-tu à voir justement ces répercussions-là de ce conflit qui continue de traîner au Québec pour Mark Carney?
Oui, puis il faut le dire, là, même si les gens savent très bien que c'est pas de la faute de Mark Carney ce qui se passe avec Donald Trump, tout ce qui touche l'économie puis le portefeuille du monde,
c'est
ça
clair.
Fait toujours mal à un gouvernement en place. C'est pas scientifique, mais j'ai fait une ligne ouverte il y a deux semaines.
Oui, non, mais le fun!
Moi, j'aime ça faire des lignes ouvertes, puis j'aime ça jaser avec les gens. Écoute, les commentaires au téléphone des gens, c'était sur la politique en général. Tout le monde avait de quoi de négatif à dire sur Mark Carney et les concessions.
Ouais,
je sentais une colère chez les gens et une incompréhension.
Ben, c'est parce que aussi, quand tu promets mère et monde, il faut que tu livres.
Ouais.
Il a dit « Je suis l'homme de la situation pour négocier avec Trump. »
En politique, on se dit « Gagne aujourd'hui, arrange-toi avec tes troubles après. »
C'est ça. Là... en tout cas, il apparaît pas l'homme de la situation présentement. C'est un peu comme la CAQ qui nous a dit qu'on est un gouvernement de comptable, mais on fait les déficits les plus importants.
C'est ça. C'est le contraste entre les deux. Mark Carney est chanceux parce que les gens voient pas davantage Pierre Poilievre performer dans la situation.
En effet, puis je fais partie de ces gens-là, soit dit en passant.
Mais s'il y a quelqu'un qui apparaissait comme un bon négociateur sérieux, qui prenait la tête du Parti conservateur, ce que je, en passant, ne crois pas qu'il va arriver parce que la base électorale des conservateurs, ils ont voté. Je veux dire, Jean Charest a fait un score gênant à la dernière course à chefferie. Fait que ça vous donne une idée. Là, il est devenu, lui, négociateur pour le Canada, mais il n'est pas capable de se faire élire à la tête du Parti conservateur. Donc, bref, tout ça pour dire que Marc Carney est bien chanceux d'avoir Pierre Poilievre en face de lui.
En effet, tu as entièrement raison. Antonine Iacarini, je m'étais ennuyé de faire de la radio avec toi.
Moi aussi,
je suis content. Ça a été un beau caucus.
On se voit demain.
On remet ça demain, 12h30, avant de passer à la pause circulation, Mathias.
Oui, bien, je veux quand même faire un tour rapide. Vous aurez deviné 20 directions ouest entre Taniata et président Kennedy. C'est au rouge. Même chose pour Guillaume Couture. Hauteur chemin du fleuve en direction ouest. Un petit ralentissement aussi. Capitale, direction est, ça commence à ralentir entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuviale en direction ouest, c'est à hauteur de Laurentienne. En parlant de Laurentienne, direction sud pour accéder à Capitale, quand même un peu d'attente. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Le Québec Tattoo Show est de retour à Québec pour une troisième édition. C'est au Centre de foire de Québec du 21 au 23 août. C'est une centaine d'artistes tatoueurs, une ambiance unique où se croisent art corporel, culture alternative et performance originale. Dont une tentative officielle de record mondial Guinness pour le plus grand nombre de signatures tatouées sur un corps. Le projet Sign My Skin. Boulevard vous invite à vivre l'expérience du Québec Tattoo Show et qui sait, peut-être repartir avec un nouveau tatou. Rendez-vous sur le blvd.fm dans la section concours. Écrivez-nous, c'est quoi le tatou que vous voudriez avoir et vous courez la chance de gagner 2 laissez-passer pour le Québec Tattoo Show et 250$ en carte cadeau pour votre nouveau tatou Boulevard 102.1. On est là pour vous faire vivre les plus belles expériences. Courte pause et par la suite, Stéphanie Martin vient s'asseoir avec nous. C'est la nouvelle candidate du Parti québécois dans la circonscription de Vanier-les-Rivières. Et on va avoir à la suite de Stéphanie Martin, Éric Gingras, président de la CSQ. On va parler éducation, une hausse des refus de 40% dans les cégeps. C'est très préoccupant. Émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Le retour de Denis avec Denis, Max et Véro par la suite. Audrey est à sa dernière journée de déménagement. Marceau le soir à 18h avec le maître Belmar. Et également, demain matin, 6h, c'est Marceau le matin avec Jeff Fortin, Max Larouche également, qui accompagne Marceau. 7h30 demain matin, manquez pas notre annonce. Notre programmation officielle pour l'automne débute le lundi 24 août. Et on va vous annoncer 2 nouvelles personnes qui vont faire partie de notre équipe. On va avoir une équipe de feu, Mathias, à Boulevard. On va être prêt à, justement, y aller dans cette campagne électorale qui va tellement être intéressante.
Ça va être palpitant.
Mais, hein, que ça va être palpitant. Hey Mathias, as-tu déjà rêvé faire de l'argent facilement?
Ben, je pense, ben oui. Tu me poses une question, ouais. Je pense que c'est évident que oui. Là, tout
admettons
le monde a déjà rêvé à ça.
Admettons, je te disais, hey, quand mon Mathias, il y a 1,28 million de dollars qui vient d'arriver dans ton compte en banque, qui tombe du ciel, t'aurais été heureux? Ben oui.
Ben, ça serait dur de pas être heureux, en tout cas.
Ah, OK, parfait. Ben, c'est arrivé. C'est arrivé justement à un propriétaire de cartes de hockey. Lui, il avait tombé sur la carte unique de Macklin Celebrini, la carte Upper Deck Young Gun, signature Outburst Gold, puis il l'a revendu 1,28 million de dollars ce week-end.
1,28.
Pour une carte de hockey qu'il avait gardée soigneusement, évidemment, dans les bons vieux petits plastiques qui permettent que les coins ne se replient pas. Fait qu'il a dit, oh, je vais emmener ma famille à Walt Disney.
Ben, hein, il peut se le permettre. Hein? Une petite garderie.
Donc, c'est une nouvelle un peu insolite que j'avais vue en fin de semaine que je voulais vous partager. Je sais que Max Larouche collectionne les cartes d'hockey. Puis honnêtement, il y en a qui valent déjà des dizaines de milliers de dollars. Notre ami Max a...
Hein?
Ouais, notre ami Max a ça pour sa retraite.
Ben, attends, t'es-tu sérieux?
Oh,
il y a
oui.
Des cartes qui vaut...
Ah oui, des cartes recrues. Je pense qu'il y a la carte recrue de Sidney Crosby, si je me trompe pas.
Puis il garde ça t'es, pour sa retraite.
Ouais, t'es pas unique, là. C'est
mais
ouais,
mais
lui,
c'est
là,
pas
mais...
obligé d'être unique non, pour non, valoir d'argent.
Exactement. Ben, il garde mais ça ben... pour sa retraite, juste ça de même. Là. Quand il annonçait, il pourrait payer les Renault dans son condo.
Ouais, ben, j'ai eu la même réflexion que toi, Jeff, tu vois.
Yes. On parlait de campagne électorale qui va être passionnante de politique provinciale. Et on accueille en studio la candidate pour le Parti québécois dans Vanier-les-Rivières. Je vais le dire, ex-journaliste au Journal de Québec, c'est bien ça, Stéphanie Martin. Stéphanie, comment vas-tu?
Ça va super bien, merci de m'inviter.
Ça fait plaisir.
Sais-tu, Jean-François, je pense que je vais aller vérifier dans le garde-robe de mon fils où il y a des bacs,
ben,
et des bacs
ça,
de cartes de hockey. Maintenant que tu m'as lancé cette idée-là, il y a peut-être un trésor qui dort au fond de mon garde-robe.
Exactement, 1,28 million de dollars. Tu sais, ça fait un beau voyage à Walt Disney.
On va y penser.
Avec
on
plein
va éplucher ça ce soir.
Exactement. Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le saut en politique?
Ben écoute, c'est un saut que je fais. Là, je passe d'un coup de l'autre côté du micro.
Ben
hein,
oui.
Ça fait quand même drôle de vous parler dans ce
ben
contexte-là.
Oui, tu avais analysé la campagne électorale municipale avec nous sur les ondes de Boulevard.
Exactement. Toujours un plaisir d'ailleurs de venir ici. Pour ce qui est de pourquoi j'ai été convaincue, c'est que je vois l'élection qui s'en vient comme un moment charnière dans l'histoire du Québec. Évidemment, comme journaliste, toutes mes convictions politiques ont toujours été mises de côté. Mm-hmm. Mais moi, en 1995, j'avais 17 ans. Puis, j'ai pas pu voter au référendum.
Puis, t'aurais voté oui, c'est ce que je comprends.
J'aurais voté oui avec grand enthousiasme. C'est comme une rédemption aujourd'hui de voir cette question-là revenir sur le plancher, vouloir en discuter collectivement, parce que c'est une belle discussion à avoir pour notre avenir collectif. Je pense qu'il faut la mettre sur le tapis, il faut l'engager ensemble. C'est juste sain de l'avoir, cette discussion-là. Donc, c'est une grande partie des raisons qui ont fait que j'ai réfléchi à cet engagement-là. J'ai le goût de m'engager d'une façon différente, de faire entendre ma voix comme femme engagée maintenant en politique. Je pense que c'est important que du monde le fasse. Et la vision que le Parti québécois a, ça rejoint mes valeurs. C'est en plein aligné avec ce que je suis, ce que je souhaite pour le Québec. Donc, c'est ça qui m'a comme convaincue de dire, bon, mais pourquoi pas moi? J'ai tellement entendu souvent le discours, les femmes en politique, c'est important qu'elles soient là. Bien, là, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai des choses à dire, puis je vais aller les dire, puis je vais faire ce saut-là. Je m'engage pas dans un chemin facile.
Non, ben non, je t'engage pas dans un chemin facile.
Mais avant, j'ai le goût.
Ouais, avant justement d'arriver à Vanier-les-Rivières, est-ce que c'est le fait qu'on a vu beaucoup de candidatures féminines avec le PQ, puis je regarde aussi la grande place qu'on a laissée à Catherine Gentilcoeur quand elle a été élue dans Terrebonne, qui t'a convaincu que c'était le bon moment?
Je suis impressionnée par la qualité des candidatures au Parti québécois. Je regarde ça aller d'un œil intéressé depuis un bout de temps. Les candidatures féminines particulièrement.
Vraiment? On a reçu Chloé Fauchon, candidate dans Louis Hébert. Très grand calibre.
J'ai écouté son entrevue d'ailleurs avec vous. C'est sûr que ça fait partie des choses que le parti met de l'avant, puis moi qui rejoins parfaitement mon engagement.
Vanier-les-Rivières, c'est une course à trois entre le PCQ, le PQ et la CAQ. Pourquoi les électeurs de Vanier-les-Rivières voteraient pour toi?
Bien, les électeurs vont devoir se poser une question quand même assez cruciale aux prochaines élections. Est-ce qu'on a le goût d'ajouter 4 ans à un mandat déjà de 8 ans de la CAQ qui, selon moi, a fait reculer plusieurs enjeux dans la capitale nationale? Donc, c'est vraiment une question que les gens vont se poser. Puis moi, ce que je veux leur apporter, l'engagement que je veux prendre pour eux, c'est que je sais que la famille est au cœur de leur vie comme elle est au cœur de la mienne. Moi, avec mes 2 enfants... on fréquente Vanier-les-Rivières, on parcourt les rues, on est dans les terrains de soccer, les arénas de cette circonscription. Je le sais que c'est important, les enjeux qui touchent la famille, la qualité de vie. Et donc, c'est ça que je veux mettre de l'avant, moi, en même temps que faire la promotion de l'essor et du rayonnement de notre capitale nationale.
Ouais.
Donc, c'est ça que je propose, puis j'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre des citoyens pour leur présenter ma vision, puis éventuellement des engagements qui vont aller directement dans cette direction-là.
La bonne vieille Arena, Patrick Poulin aurait besoin d'un peu d'amour là, pour coacher
je
là.
Je dirais pas le contraire. Après ça, pour des engagements précis, puis encore non, là, on veut pas se
blague,
mettre
là.
Sur
non,
le terrain municipal.
Non, ça c'est quand t'as parlé de famille puis d'Arena, j'ai dit, ouais, c'est vrai que quand je coach à Patrick Poulin, je mets une petite gilette plus parce qu'il fait frette.
Ben, Nous autres, ça l'hiver, on est à Patrick Poulin, puis l'été, on est au terrain de soccer juste à côté. Ouais, c'est fait ça. Que si vous me cherchez, je vais être dans ce coin-là.
Tu vas être dans ce coin-là, fait que tu connais bien le coin. Tu vas devoir débattre avec Patrick Paquette, qui est le candidat pour le PCQ, ex-chef de Priorité Québec, que tu as questionné en tant que journaliste. Ça te fait quoi?
Bien, ça, c'est effectivement, ça va être intéressant à voir aller. J'ai effectivement couvert le politicien.
Tu connais ses points faibles, là?
Ah, ben, il va falloir qu'il travaille sur la rigueur et des sorties publiques. Je l'avise que je vais toujours conserver, moi, mon attitude pointilleuse pour les faits et les nombres et la rigueur l'importance des faits. Mais écoute, ça va être une candidature intéressante comme celle des autres partis, une campagne intéressante sur les enjeux. Moi, je veux qu'on parle des enjeux surtout. Puis ça va être une bataille à suivre, je pense, dans la capitale, à Vanier-les-Rivières. Je suis contente de la partie.
Et on parle de ta carrière de journaliste, justement. Qu'est-ce que tu penses du malaise que je pourrais dire que certaines personnes ont face, justement, aux journalistes qui se lancent en politique?
Bien, écoute, c'est sûr que c'est un discours qu'on entend. Par contre, on est des journalistes, mais on reste aussi des citoyens, des personnes qui vivent dans la ville, qui habitent notre circonscription, notre secteur, notre ville. Donc, à un moment donné, moi, j'ai toujours fait mon travail de la façon la plus professionnelle. Vous demanderez à n'importe qui a croisé ma route au plan professionnel, la rigueur, le professionnalisme, ça a toujours été important pour moi. L'objectivité aussi m'a accompagnée dans chacune des démarches de ma profession. Maintenant, on ne peut pas non plus empêcher quelqu'un de vouloir s'engager un peu plus loin puis de faire un peu plus, tu sais, faire différemment pour sa communauté. Puis moi, c'est juste comme ça que je le vois. Je ne serai pas la première, puis je ne serai pas la dernière non plus. Journaliste, on parle de Martine Biron, Bernard Drainville, c'est tous des gens qui ont fait le saut en politique puis qui ont apporté une contribution au Québec. Donc, je pense que c'est important de ne pas mettre de barrières trop grandes là-dessus.
Tu rêves à quoi pour la capitale nationale si tu es élu, que le PQ est élu?
La capitale nationale est absolument essentielle et doit jouer un rôle prioritaire et proéminent dans le Québec en général. Les grandes réunions, il y a une loi sur le statut de la capitale nationale, mais elle est trop souvent bafouée. Les grandes réunions, les grandes rencontres politiques, ça doit se tenir ici. Et on doit aussi axer sur le développement de la capitale, tant au plan économique qu'au plan des transports, de la mobilité. Il faut vraiment mettre un accent important sur tous les enjeux qui touchent la capitale nationale. Donc, moi, je veux aller de l'avant avec ça. Et je pense que le parti est aussi bien aligné avec cette position-là. Le Parti québécois veut faire du Québec un pays. On deviendrait une capitale internationale. Donc, il n'y a pas meilleure situation pour positionner Québec que dans ce projet-là collectif.
La relation avec cet élu, la relation avec Bruno Marchand, t'en vois comment?
Moi, je vais me positionner comme une alliée de la capitale nationale et de tous les acteurs qui veulent son essor. Et le maire de la ville de Québec, évidemment, est un allié de premier plan, un acteur de premier plan. Donc, moi, je vais collaborer avec tout le monde. Le maire de Lévis, c'est la même chose. Là, je parle comme si c'était fait, mais je pense
regarde bien. Tu projettes.
C'est ça, j'aime ça.
C'est bien
j'aime
correct.
Ça me projeter de même.
Le pont à étagement, le Bourgneuf, Robert Bourassa, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on règle finalement ce dossier-là?
Le pont d'étagement, ça fait des années que le gouvernement en parle, le promet et n'agit pas. Je sais que c'est un enjeu majeur dans la circonscription. C'est réclamé depuis belle lurette. M. Labeaume en parlait avant M. Marchand. Ça n'a jamais avancé dans les 8 dernières années. Au Parti québécois, on s'engage à prendre vraiment au sérieux ces enjeux-là. Je ne m'engagerai pas aujourd'hui précisément à la réalisation d'une infrastructure comme celle-là, mais je sais qu'au Parti, on va être très intéressé à regarder la situation et aussi à réduire les coûts potentiels des infrastructures. Donc ça, ça peut apporter une porte d'ouverture pour créer comme ça des infrastructures nouvelles qui améliorent la qualité de vie des gens puis la mobilité dans la circonscription.
Donc, pour l'instant, on ne promet pas de pont à étagement, mais on va évaluer la situation. C'est ce que je comprends?
Ça fait vraiment partie des choses qu'on va observer et analyser très sérieusement.
Pour ou contre transformer les autoroutes en boulevard urbain, je pense notamment à Laurentienne. Je sais que William Trudel, homme d'affaires, disait qu'il faudrait mettre ça en boulevard urbain, ça créerait une meilleure synergie avec le quartier qu'il est en train de développer.
Bien, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, que la qualité de vie dans un quartier, ça passe par une perméabilité entre les secteurs. Donc, cet enjeu-là est sur la table. Ça fait aussi partie des enjeux dont je parle qui ont été mis sur la glace et abandonnés pratiquement depuis les dernières années. Il faut remettre ça sur la table. Il faut avancer dans ce dossier-là parce que ça fait trop longtemps que ça dure, que ça attend. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ça fait partie de l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers.
Stéphanie Martin, candidate pour le Parti québécois dans Vanier-les-Rivières. Je te souhaite une bonne campagne électorale. Je te félicite de faire le saut en politique. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui décident de faire le saut en politique. Tu es une mère de famille. Je sais que tu vas investir énormément de temps. Fait que félicitations de le faire.
Merci.
Fait plaisir. On s'en reparle?
Oui, on se reparle certainement.
Excellent! Stéphanie Martin, candidate du PQ dans la circonscription de Vanier-les-Rivières. Hey, moi, j'ai hâte au premier débat, Stéphanie contre Patrick Paquette. J'ai vu...
Ça va-tu se faire ici?
Ben, c'est parce que j'ai vu Patrick réagir à des questions de Stéphanie des fois. Putain, c'est ça, là. Quoique, c'est-tu Stéphanie ou Olivier Lemieux qui était le plus tannant avec Patrick Paquette? Je me pose la question. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Tu étais là-dessus? Parfait. On en jase! Je pense qu'on va l'organiser, ce débat-là, Boulevard 101, Mathias.
Ouais, t'as l'air d'avoir envie, là.
Vanier-les-Rivières.
Mais c'est probablement... J'ai envie de dire, je pense que c'est la circonscription la plus serrée à Québec. Mettons, on met Lévis là-dedans. Lévis,
c'est
du tête-à-tête aussi entre trois parties.
Ouais, puis chute la Chaudière.
Aussi.
Oui, moi, je vais avoir le débat Martine Biron, Dominique Dumas, Serge Bonin.
Hey, on va avoir on va quand même avoir des méchantes belles luttes dans la capitale nationale pour la prochaine élection.
Non, honnêtement, dans l'émission d'en genre, je veux qu'on organise facilement entre 2 à 4 débats. Okay. T'as 2 minimum, 4 maximum, avec des circonscriptions, justement, t'sais, qui sont pas jouées. Là.
Des circonscriptions serrées avec des personnalités fortes ou que tu sais que...
Charlebourg, Marie-Josée Morancy dans Charlebourg, avec le candidat économique du PQ. Là, j'ai un blanc de mémoire sur son nom, mais qui est enseignant en économie au niveau du cégep. La jeune Héloïse Coulombe pour le Parti conservateur. Je vais avoir ce débat-là.
Ouais, pour le PQ, c'est Gabrielle Coulombe qui se présente.
C'est ça. Je voudrais... Ah, c'est pas Héloïse Coulombe, par exemple. Hein,
c'est Héloïse Coulombe.
Héloïse Coulombe aussi,
ouais.
Bon, et voilà, c'est deux Coulombes. Donc, je vais avoir ce débat-là. Marc, je trouvais que Julie White avait de la pogne tantôt aussi dans le point de Max.
Mais Julie White, Pascal Paradis. Un contre un.
Ah, là, j'ai trop...
Ouais, c'est ça. Là, parti comme c'est là,
on
Jeff, va
en transférer dans Marceau
le
matin aussi. J'ai trop d'idées de débat. Parlant d'un homme qui aime débattre, on a au bout du fil le président de la CSQ, M. Éric Gingras, et on va parler d'éducation avec lui. M. Gingras, merci de votre participation à l'émission On en jase.
C'est toujours un plaisir. Bonjour à vous.
Salut. Monsieur Gingras, ça n'a pas d'allure. 40% de hausse au niveau des refus dans nos cégeps. On refuse des jeunes qui veulent étudier en sciences de la nature et en sciences humaines. Aïe, aïe, aïe. Quel résultat catastrophique de la CAQ.
Bien, puis on est rendu là. Écoutez, ça devrait être une bonne nouvelle là, que vous me disiez ça, qu'il y a autant de jeunes qui veulent faire leur préuniversitaire, qui veulent faire des techniques. C'est une belle nouvelle. Puis là, on sait les chiffres, c'est clair. Là, 5% d'augmentation de la clientèle étudiante il y a 2 ans, 5% l'année dernière, 4%. Ça, c'est ceux qui sont rentrés. Donc, il y a eu une augmentation en 3 ans de près de 15%. Mm-hmm. Et ça, c'est sans compter ce que vous me dites, c'est-à-dire des gens qui, finalement, n'ont pas réussi à entrer. Donc, c'est une belle nouvelle, mais... étant donné les coupures des dernières années, étant donné la vétusté de nos milieux, on ferme des pavillons au lieu d'en ouvrir. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec, malheureusement, un réseau, celui du collégial, qui manque d'amour. Parce que, puis d'ailleurs, moi, je veux vous remercier d'en parler, ça, des cégeps, parce que bien souvent, on n'en parle pas.
Mais non,
parce
mais
que vous les avez... parents ne sont pas là,
ouais,
etc.
T'sais, vous parlez de coupures, vous parlez aussi d'infrastructures qui sont désuètes. Ça, ça n'a aucun sens. Mais je veux vous parler aussi du manque de vision du gouvernement. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand mon plus vieux est arrivé en maternelle, je regardais ça, là, c'était une explosion des classes de maternelle à Charlebourg. Fait que j'ai dit, bon, mais quand est-ce qu'on construit une nouvelle école secondaire? Ils m'ont dit pas d'implant. Elle est arrivée 12 ans plus tard. Fait que vous comprendrez, elle est arrivée 5 ans trop tard. Mais là, je me dis, tout ce beau monde-là s'en va au cégep après. Ici, dans la région de Québec, 1991, le dernier nouveau pavillon qu'on a inauguré au niveau collégial, ça fait pas de sens.
Bien, c'est pour cette raison-là là, que, vous savez, à la CSQ, nous autres, ce qu'on demande, c'est une vision à long terme. Vous venez de le dire, là.
Ben
on
oui.
devrait être au Québec. Au Québec, on devrait être capable, là, de la petite enfance en enseignement supérieur, là, notre réseau scolaire, primaire, secondaire, cégep, de se dire, OK, là, voici notre plan, notre projet pour 15 ou 20 ans. Pas vraiment parce que l'école a changé depuis 20-25 ans. On a juste à penser au numérique, puis à l'intelligence artificielle, puis ce que les jeunes veulent apprendre, puis les programmes, etc. Bon, là, après ça, la natalité a changé. C'est plus dans les mêmes endroits qu'avant. Puis le pire là-dedans, c'est que bien souvent, au ministère, ils sont capables d'aller chercher des chiffres à cause des statistiques. Donc là, il faudrait un plan où on s'assoit puis on dit, OK, voici ce qu'on veut de nos réseaux là, pour 15-20 ans. Le problème, c'est là, on s'en va en campagne électorale. On va parler de l'éducation au sens large dans un cycle électoral. Mais votre enfant, là, vous le nommiez, qui a fréquenté la maternelle, lui, il n'est pas dans un cycle électoral.
Non, non, non.
Il fait son 6 ans de primaire, son secondaire, puis son cégep ou la formation professionnelle, le marché du temps. Bien, ça, là, ça doit être planifié. Puis on a du monde qui pourrait asseoir tous. On a des gens qui ont de l'expertise, qui ont des réponses, donc on devrait asseoir tout ce monde-là et trouver des solutions ensemble.
Ici à Québec, on continue dans le domaine des infrastructures désuètes. On vient d'apprendre aujourd'hui que l'école primaire Saint-Fidèle ne sera pas prête pour la rentrée. C'est 345 élèves qui vont devoir déménager dans des locaux à 250 mètres, mais ça fait en sorte qu'on est obligé de prendre 12 groupes d'élèves secondaires Jean de Brébeuf et les envoyer au centre de formation professionnelle de Limoilou. Je peux pas croire qu'on a encore des écoles qui tombent en ruine comme ça.
Ben oui, puis écoutez, les cégeps, là, je pense qu'on est à 60 % de taux d'immeubles vétustes, puis au primaire, secondaire, on est à peu près 50 %. Donc, on voit que c'est très présent. Donc, ça aussi, ça prend un plan. Mais moi, je vous dirais, par exemple, vous savez ce qui va arriver, là? Vous me donnez l'exemple, puis c'est un exemple dans la région de Québec pour pouvoir en nommer d'autres ailleurs où soit l'école n'est pas prête ou des écoles qui, en cours d'année, vont fermer parce qu'on découvre des problèmes à l'intérieur des murs. À la fin, là, c'est qu'il va y avoir du personnel qui vont bien s'en occuper. Tu sais, qui vont tenir ça à bout de bras. Ça va être difficile, les parents vont chialer un peu, puis c'est bien normal, parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants, parce que justement, on les paye ces taxes-là, fait qu'on veut avoir des services, mais à la fin, on va avoir du bon personnel qui va s'en occuper, et le problème, c'est que le gouvernement, bien souvent, et on l'a vu pendant 8 ans avec la Coalition Avenir Québec, on se fie sur ce monde-là. On se fie sur ces gens-là qui vont être là, puis qui vont faire le travail, parce qu'on veut pas que nos enfants ne soient pas bien dans leur classe, puis on va tout faire, on va leur acheter du matériel, prendre de l'argent de nos poches, puis on va faire... Mais malheureusement, le réseau a des problèmes, et je le répète, là. Faut arrêter de penser que ça va prendre des plasters. C'est plus profond que ça. Assoyons tout le monde. Puis je vais être franc, là, on n'a pas toutes les solutions comme syndicat, mais il y a des universitaires, il y a des patrons, il y a des gens de la communauté, il y a des parents, et on serait capable, justement, de se dire qu'est-ce qu'on veut pour notre école, pour nos cégeps, pour notre réseau, pour les 20 prochaines années.
On est rendu là, M. Gingras, d'avoir justement ces rassemblements-là de gens autour d'une même thématique, puis après ça, que ça soit mené, puis là, je vais prendre ce terme-là, là, par des personnes indépendantes du gouvernement ou du syndicat pour mener des plans à terme de 15-20 ans, que ce soit en éducation, en santé, en infrastructure, parce qu'on n'a pas le choix de le voir à long terme, on a pris beaucoup trop de retard.
Ben oui, ça prend, qu'on appelle ça des états généraux, peu importe. Là, l'important, c'est d'asseoir tout le monde. Puis comme vous me le dites, là, après ça, il faut créer des consensus. Puis il faut arrêter de simplement regarder c'est-tu payant électoralement, politiquement, cette décision-là, ou finalement, les fruits vont juste être dans 7 ou 8 ans. Ça, c'est possible que ça arrive, mais ça, il va falloir faire preuve de courage et d'humilité pour être capable de le faire, même syndicalement aussi. Alors, ça, il faut être en mesure de le faire. Puis, vous l'avez nommé, là, ça fait 8 ans que le gouvernement qui était présent, là, le gouvernement de la Coalition Amener Québec, M. Legault, nous a répondu à chaque fois qu'on demandait d'avoir une réflexion, il nous disait « pas le temps de réfléchir, faut agir
ouais. ».
Clairement, là, pendant 8 ans, on a agi, mais c'était pas la bonne façon.
On a agi tout croche.
Ben là, on peut-tu prendre un pas de recul, puis réfléchir, puis là, qu'on s'entende, là. On fait pas une réflexion qui va durer 4 ans, là. Mais elle va pas durer non plus un week-end où on va tout inviter tout le monde pour faire semblant d'hésiter. Ben, entre les deux, prendre le temps de bien faire les choses, je pense qu'on est prêt pour ça au Québec. C'était la dernière fois qu'on a eu cette réflexion-là, c'est en 1995 au Québec. Je le disais à la blague, là, je disais, écoutez, Véronique Routier était VJ à Musique Plus. Je pense qu'on est prêt à changer et à réfléchir.
Tellement, vous avez tellement raison. On parle avec Éric Gingras, président de la Centrale syndicale du Québec, la CSQ. Monsieur Gingras, vous m'avez ouvert la porte. Quelle concession syndicale on serait prêt à faire pour améliorer le domaine de l'éducation?
Ben moi, je vais m'avancer en vous disant que nous, ce qu'on dit, là, puis on est très clair là-dessus, si on redonne à l'école son rôle réel là, d'encadrer, d'instruire, d'éduquer, de socialiser, puis qu'on redonne aux parents puis à la maison ce que ça doit appartenir, etc., mais nous, on pense que ça va coûter moins cher. Fait que ça, dans la catégorie des concessions syndicales, ben je serais pas être obligé d'être à votre émission pour dire qu'il manque toujours de l'argent puis d'en rajouter puis d'en rajouter. Parce que si on redonne les moyens de faire ce à quoi l'école sert réellement, moi, je pense que tout le monde est gagnant à la fin.
OK. Mais en termes peut-être de conditions de travail ou en termes d'organisation de travail, y a-t-il des choses sur lesquelles vous dites « Hey, moi, avec mon personnel, on serait prêt à faire cette concession-là pour améliorer justement le service aux étudiants? »
Bien, on sera prêt à discuter, mais je vous rappelle quand même que présentement, avec les conditions de travail que le personnel a, ça n'attire pas les foules. Fait que vous me permettrez de quand même garder, de me garder un petit gêne, mais est-ce que s'il y a des bonnes idées provenant d'un autre groupe, des patrons, provenant de parents, etc., ma réponse, c'est on est prêt à discuter puis de trouver. Par contre, la vérité, là, c'est que malgré tout, là, malgré ce qui est souvent dit, véhiculé comme quoi il y a des grosures dans la société qui sont syndiquées dans le réseau scolaire, ben, je vous dirais, si c'était le cas, ben, il nous manquerait pas aujourd'hui 3000 profs, 500 professionnels, plus de 1000 PES. Donc, une fois que je vous ai dit ça, est-ce qu'on est capable de parler? La réponse, c'est oui.
Non, ça, je suis d'accord avec vous. Les gros durs, je les ai vus dans le milieu du transport en commun où on répare des freins en 4 heures puis on va se cacher pendant 3 heures en quelque part en éducation avec 10 à 15 cas problématiques à cette heure par classe. Là. Chapeau à ceux qui font le travail d'enseignants et enseignantes. Monsieur Gingras, toujours un plaisir de vous parler. On se reparle prochainement.
Ça me fait plaisir. Bonne
merci.
Journée,
au revoir.
À tout le monde. Au revoir.
Éric Gingras, président de la centrale syndicale du Québec. C'est juste là, je reste toujours un peu sur ma faim là, avec les syndicats. Quand on dit quelles concessions vous seriez prêts à faire, puis on n'est pas capable d'en nommer. Là. Il y a somme toute des choses que je pense que dans la rigidité de certains enseignants, on serait capable de faire pour venir faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la partie syndicale, puis c'est bien correct, mais Éric Gingras, honnêtement, est plus ouvert que la moyenne des ours en termes de président de centrale syndicale. Mathias, il y a de la circulation?
Oui, bien, j'ai pas le choix de vous mentionner un accident à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction nord, hauteur boulevard Champlain. L'accès depuis le boulevard Champlain qui est présentement partiellement entravé. La voie de droite qui est donc bloquée à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction nord, puis ça crée un bon ralentissement dans le secteur là, qui se fait sentir. C'est du pare-choc à pare-choc. Là, ça remonte le long de la 73 pour le moment. Vous mentionnez par le fait même qu'à 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, ça reste difficile. Même chose pour Guillaume Couture, auteur chemin du fleuve. Et sur la rive sud, sur la rive nord maintenant, capitale direction est entre Laurentienne, ça remonte un peu avant Neuvial, c'est au ralenti. Puis il y a de quoi qui semble se créer. Je ne sais pas s'il y a un accident ou une panne dans le secteur. Robert Bourassa, direction sud, hauteur Le Bourgneuf. Il semble avoir quelque chose qui crée un ralentissement. Si vous avez des informations, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Courte pause et on se fait un gros tour de l'actualité par la suite ici à On en jase sur Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14h, on en jase.
L'émission d'En jase, il est présentement 13h35. Je vous rappelle qu'à la météo, le soleil et les nuages, ça va être une alternance pour cet après-midi. 25 degrés, mais 33 avec humidex. Demain également, alternance soleil et nuages. On va avoir 25 degrés de 30 avec humidex. 24 degrés de la pluie pour mercredi présentement. Et à plus long terme, ça serait soleil jeudi et vendredi avec 22 et 24 degrés. Circulation, Mathias?
Oui, bien, pas le choix de vous mentionner. À la sortie du pont Pierre-Laporte, présentement, il y a un accident en direction nord. C'est à hauteur du boulevard Champlain. L'accès depuis le boulevard Champlain, qui est d'ailleurs partiellement entravé. La voie droite qui est présentement bloquée sur Henri IV, direction nord, à la sortie des ponts. Puis ça crée un bon ralentissement dans le secteur, là, j'ai envie de vous dire. Autant sur la 73, ça commence à ralentir sur la 20 direction ouest aussi. Vous mentionnez par le fait même 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy. Il y a un ralentissement. Même chose de Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve. Et sur la rive nord, c'est à 20 direction est entre Pierre Bertrand, un peu après Robert Bourassa, c'est au rouge. Et Robert Bourassa, direction sud, hauteur Le Bourgneuf. Un ralentissement qui s'est aussi créé en direction sud au cours des dernières minutes. Quoi que ce soit d'autre, c'est par texto 418-971-1021.
Pendant qu'on voit l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, s'impliquer dans les négociations avec les États-Unis, qu'un Stephen Harper fait partie également de la garde rapprochée de Mark Carney pour ses négociations critiques avec les États-Unis. Qu'aux États-Unis, quand un président termine ses deux mandats, il demeure toujours à l'affût de l'actualité. Il demeure impliqué par des conférences. Je pense à George W. Bush aussi, que même si Barack Obama avait pris sa place en tant que démocrate, a assuré une très bonne transition parce qu'on était en récession au moment de l'arrivée d'Obama au pouvoir. Bien, voici ce que nous, notre ancien premier ministre canadien, fait. Oh, attention, c'est censé partir. Et voilà. Ça, c'est son gars qui chante. Ah!
In the home hardware on St. Laurent Street. If you pay me, baby, I can get used to you calling me, baby. Go down, down.
Ouais. Puis là, on voit Katy Perry danser avec. Hey, c'est-tu triste? D'avoir un jambon de même comme ancien premier ministre.
C'est de voir danser de même avec des bouches toilettes dans les mains en plein milieu du Home Hardware. Je comprends qu'il a le droit de vivre sa vie. Puis je suis le premier à le défendre quand il y a toutes les photos là, avec la crème solaire puis tout qui sont sorties. Je trouvais ça complètement ridicule.
Mais
là, ça, c'est publié par son fils. C'est que ça va être publié dans...
Son fils qui essaye de se lancer une carrière.
Exact. T'as quand même une responsabilité, tant qu'à moi, d'image en tant qu'ancien premier ministre du Canada. De dire que ça a représenté notre pays pendant 10 ans de temps, c'est honteux. Là.
C'est honteux.
Ça fait mal.
Tu l'as bien dit, c'est honteux. Je trouve que c'est le bon terme que tu utilises. Ça n'a aucun sens que notre ancien premier ministre soit rendu aussi bas. Ça crée tellement une image négative du Canada. Ah, que je regrette les 10 années de Justin Trudeau. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Quand vous voyez notre ancien premier ministre danser dans une vidéo Instagram de son gars avec un siphon dans les mains dans une quincaillerie puis essayer de jouer à la rockstar avec sa blonde Katy Perry, ça vous fait quoi? Moi, ça me dégoûte.
Mais tu sais, t'as dit aussi bas. Un père de famille normal qui fait ça et tout, bon, tu sais, t'entends mieux s'il se fait du fun. Mais comme je dis, pour moi, t'as une image à préserver du Canada.
Oui.
T'as une responsabilité face à ça, là. Puis cette responsabilité-là, tu y réponds pas en partageant des choses de la sorte ou que tu parais comme ça.
Non, je l'ai dit, Jean Charest négocie présentement directement avec les Américains. Stephen Harper fait partie de la garde rapprochée de Mark Carney. J'ai donné l'exemple de George W. Bush avec Barack Obama. Et là, on se retrouve, nous, avec ça.
Ça fait dur.
Ça fait vraiment dur. Audrey qui dit, il n'aurait jamais dû être premier ministre. Oh non, Audrey, il n'aurait jamais dû être premier ministre. Ça a été une catastrophe en termes d'immigration et de gestion budgétaire. Puis on est pris avec cette catastrophe-là, autant au Québec qu'au Canada. Alors, Justin Trudeau C'est le pouce en bas, tu sais, on a des chroniques des fois dans le journal. C'est mon pouce en bas de la journée. Hey, débarrasse, mon Justin. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, bien, on revient sur l'entente de Churchill Falls qui a été signée aujourd'hui du côté de Terre-Neuve. Puis de ce qu'on savait, c'est que le Québec allait avoir beaucoup plus d'énergie que ce qui était prévu. On va avoir accès à 10 000 mégawatts d'électricité destinée au Québec. Ça représente environ 27 % de notre apport énergétique total de la province de Québec. Donc, c'est énorme. Ce qu'on apprend, par contre, c'est qu'on va payer plus cher que ce qu'on était censé payer avec l'ancienne entente. Ce qu'on prévoit, c'est 6 cents le kilowattheure en moyenne jusqu'en 2077, donc pour une durée de 50 ans au total avec cette nouvelle entente-là. Ce qu'on nous dit, c'est que Hydro-Québec, ça va leur coûter en termes d'investissement dans les centrales électriques de Churchill Falls, de Gold Island et pour développer le nouveau parc éolien, environ 70 milliards de dollars au total pour ce projet-là. C'était censé être 25 milliards initialement en 2024. Finalement, on grossit le projet. Ça va être 70 milliards de dollars. Par contre, ce qui est à mentionner, c'est que ça nous assure un apport énergétique pour 50 ans. Puis selon les projections d'Hydro-Québec, si on avait fait le choix de développer de nouvelles ressources d'énergie renouvelable par nous-mêmes, ça nous aurait coûté 13 cents le kilowattheure au lieu de 6. Donc, ça nous aurait coûté 200 milliards de dollars au lieu de 70. Donc, on vient quand
Good
même
deal.
Sauver un 130 milliards pour une équivalence en termes énergétiques si on avait tout fait par nous-mêmes.
Non, exactement. On en a parlé avec Antonine Iaccarini tout à l'heure dans le caucus. Évidemment, on va regarder les fins détails, mais ça nous apparaît comme étant un excellent deal pour le Québec pour justement... assurer le plan de développement d'Hydro-Québec.
Une dizaine de jours avant la rentrée scolaire, l'école primaire Saint-Fidèle qui a annoncé aux parents d'élèves que ça ne sera pas possible d'accueillir les enfants au sein de l'établissement scolaire. C'est des fissures qui ont été trouvées dans l'immeuble lors d'une inspection de l'immeuble. Ce qu'on nous dit, c'est que les 345 élèves et 45 employés de l'école se verront déplacés au centre Saint-Fidèle, donc un établissement environ 250 mètres de l'école primaire actuelle. Et là, le problème, c'est que c'était pas des locaux qui étaient vacants, ça. Il y avait 12 groupes d'élèves de l'école secondaire Jean de Brébeuf qui occupaient ces espaces-là. Donc, ces 12 groupes-là, ben de leur côté, on les transfère au centre de formation professionnelle de Limoilou.
Des textos qui sont rentrés par rapport à Justin Trudeau. Autant j'ai détesté comme premier ministre, c'est Christian qui nous dit ça, autant je suis en désaccord avec vous au sujet de Justin Trudeau. Concentrons-nous sur les vraies nouvelles. Merci Christian de ton opinion. Trudeau n'avait plus de respect du peuple, sauf pourquoi il aurait besoin d'avoir un décorum d'ex-premier ministre. Il a été élu pas parce qu'il était bon, mais parce que la population le trouvait donc ben beau et que le monde pensait qu'il allait être comme son père. C'est un fait total, c'est un auditeur, une auditrice. Je suis très d'accord avec vos opinions.
En fait, c'est le rapport de la vérificatrice générale préélectorale qui a été déposé aujourd'hui. Et on analysait le plan de l'équilibre budgétaire de la CAQ d'ici 4 ans. Ce qu'on nous indique du côté de la vérificatrice générale, c'est qu'il y a un manque à gagner en ce moment de 5 milliards de dollars pour arriver à ce fameux équilibre budgétaire-là. Du côté du ministre des Finances, Éric Girard, on estimait plutôt le manque à gagner de 2 milliards. Eh bien, on dit finalement, c'est 2,5 fois plus de ce que tu avais prévu, et c'est 5 milliards de dollars. C'est entre autres ce que disait le rapport de la vérificatrice générale. Pornhub, qui devra payer 120 millions de dollars américains à des femmes et des hommes dans des vidéos à caractère sexuel tournées alors qu'ils étaient mineurs, donc des vidéos à caractère sexuel qui mettaient en scène ces personnes-là, malgré le fait qu'ils étaient mineurs, puis qui ont été publiées sur le site de Pornhub, ont été diffusées, puis l'entreprise qui s'est faite de l'argent avec ces vidéos-là. On parle de certaines vidéos, entre autres, qui montraient un adolescent de 12 ans qui a été vendu au téléchargement entre 5 et 20 $ sur le site de Pornhub.
Aucun sens.
Du contenu impliquant des mineurs qui a aussi été mis de l'avant par la page. On parle... En fait, l'exploitation sexuelle de milliers d'enfants a été filmée puis téléversée sur les différents sites de l'entreprise montréalaise. Les vidéos puis images qu'on évalue qui ont été vues plus de 684 millions de fois. On va donc verser 120 millions de dollars à ces personnes.
Il y en a-tu du monde malade dans la société pour regarder des adolescents ou des adolescentes dans des ébats sexuels et souvent des ébats sexuels forcés, des agressions sexuelles? Hey, imagine sur Pornhub, tu pouvais claquer « fucking PG », donc pour pornographie juvénile, puis ça t'amenait à des vidéos.
Ça te disait pas, hey, t'as un problème, là.
C'est ça.
C'est illégal, mon chum, là.
Ça disait, télécharge ça, mon chum.
Paye juste un petit 20$ de plus, là.
C'est ça. Fait que c'est 120 millions de dollars, c'est vraiment pas assez, tant qu'à moi. Cette entreprise-là a fait des millions de dollars d'argent, beaucoup plus que 120 millions en exploitant nos jeunes. C'est dégueulasse.
Et je termine avec l'inflation qui est à 3% pour le mois de juillet au Canada. C'est une légère augmentation par rapport au mois de juin. Elle était à ce moment-ci à 2,8%. L'augmentation qui s'explique surtout par la hausse du prix à la pompe. Pour juillet, c'est une augmentation de l'essence à 25% par rapport à juillet 2025, là, sur l'année au complet. Pour vous donner une idée aussi, l'inflation alimentaire qui a un peu ralenti. On vient se placer à 3,1% au cours de la dernière année. Le Québec qui est un peu au-dessus du Canada, on est à 3,3% d'inflation.
On fait une courte pause, dernière pause de notre marathon de 8 heures de radio et on va terminer l'émission en sport. 13h51, l'émission d'Angers tire à sa fin. Notre marathon radio également de 8h à moi et Mathias Turcotte. Le retour de Gravel suit avec Denis Véro et Max Larouche. Demain matin, 7h30, manquez pas notre annonce. Deux nouvelles personnes qui vont joindre à l'équipe d'animateurs de Boulevard 102.1. Oh que j'ai hâte que vous connaissiez les noms des gens qui vont venir bonifier notre belle équipe ici de radio locale. Circulation, Mathias.
Oui, ben je vous rementionne accident à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction nord, hauteur boulevard Champlain, la voie de droite qui est présentement bloquée, l'accès depuis boulevard Champlain qui est partiellement entravé. Ça crée donc un ralentissement sur les deux ponts qui vient s'ajouter au ralentissement habituel en 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy et qui vient aussi se rajouter à un ralentissement qui s'est créé au cours de la dernière heure, capitale direction est entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvière. C'est au rouge. Quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous texter 418-971-1021 par texto.
Jaden Daniels, le carrière des Commanders de Washington, il lancera sa troisième année. Sa première année avait été remplie de succès. Il s'est rendu jusqu'en finale de conférence. Sa deuxième année a été marquée par les blessures. Bien, mon cher Mathias, il se prend pas pour un pied de céleri, Jaden Daniels, OK? Écoute bien ça. Lui, il a porté le numéro 5 pour l'université d'LSU, okay. L'université de la Louisiane, autrement dit en Nouvelle-Orléans. Et là, le demi de coin DJ Pickett, un nouveau joueur, un freshman, qu'on appelle dans le jargon collégial, a décidé de prendre le numéro 5 à LSU, qui est encore disponible. Écoute, il n'est pas retiré.
Il est parti, fait qu'il est disponible.
Ben oui. Et bien là, Jaden Daniels, imagine-toi donc. Il y a, avec ses représentants, donc on comprend par là, ses avocats, a envoyé une missive à l'université LSU pour leur dire « Vous ne pouvez plus exploiter mon image de marque parce que vous avez donné mon numéro 5 à quelqu'un d'autre. » Donc, il ne veut plus, admettons, que LSU se serve de Jaden Daniels pour promouvoir l'université.
Parce que il y a de...
Parce que le numéro 5 lui appartient à lui.
Voyons, maudit, là.
Parce que lui, c'est le numéro 5 de LSU.
Ça, c'est un adulte. T'es sûr que tu ne confonds pas avec un enfant de 5 ans?
C'est un adulte, okay. Un corps arrière dans la NFL. Et là, ça n'en prenait pas plus sur les médias sociaux. Là, les gens sont extraordinaires. Les Mets de New York ont gagné 4-1 hier au baseball et ils ont marqué sur leurs médias sociaux. Par respect pour Jaden Daniels, on a arrêté à 4.
Ah, c'est bon.
C'est bon. StubHub a enlevé le 5 ses choix de combien de tickets vous voulez.
Fait que tu peux plus acheter 5 billets.
1, 2, 3, 4, il a enlevé 5, ça c'est plus.
Ah, ça c'est drôle.
En disant qu'on peut plus offrir un groupe de 5 tickets par respect pour Jaden Daniels.
OK, tout le monde rit de sa gueule live. Là.
Exactement. Regarde ici, au niveau du football, Columbia Football, c'est une université, ils ont retiré la ligne de 5 verges. Sur le terrain. En disant que c'était justement par respect pour Jaden Daniels. Fait que disons que M. Daniels a raté une belle opportunité de style.
Ah, oui. Non, mais pour de vrai, on aurait dû un caprice d'enfant de 2-3 ans.
Là. Oui, vraiment. Vraiment.
Voyons donc, c'est ridicule.
Ils ont donné mon numéro 5 à un joueur recrue.
On aurait dû le retirer. 5. Je suis le meilleur joueur de l'histoire. Ouais, commence c'est par ça. Avoir une carrière en NFL, puis après ça, tu reviendras te plaindre. Là.
Exactement. Je termine l'émission en vous rappelant que jeudi le 20 août, c'est le match boulevard des Capitales de Québec. Tous les animateurs de la station seront présents à compter de 17 heures. Les billets sont disponible sur capitaldequebec.ca. J'y étais hier, le stade était bondé. C'est une ambiance extraordinaire. Mathias Turcotte, good job pour le 8 heures de radio.
Good job à toi aussi.
On refait ça vendredi, yes puis on se parle, on en jase demain à midi. Bon retour avec Denis Gravel, les amis. Merci d'être à l'antenne de Boulevard 101.
Bonne journée.